Fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenues parce que t'es trop gentil.
Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant.
Bonjour à nos sportives et nos sportives et bienvenue pour le cinquième épisode de cette deuxième saison de Time Out. Avec moi dans ce cinquième épisode, j'ai Travis, Alima, Baptiste et présenté par moi-même Antonin. Nous tournons cet épisode de Time Out la semaine du 20 avril 2026 et on va revenir aujourd'hui sur les Jeux Olympiques d'hiver avec un peu de retard, mais nous ne pouvions pas passer à côté de l'un des événements sportifs de l'année. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par l'habituel challenge des 10 questions. Je rappelle la règle. C'est celui qui répond le plus rapidement qui gagne un point. C'est donc celui qui a le plus de points qui remporte le quiz du jour. Petite précision, vous n'avez droit qu'à une seule réponse tant que tous les chroniqueurs n'ont pas proposé une réponse. Allez, c'est parti! Première question. En combien de secondes le premier but de la finale de la Coupe du Roi entre la Real Sociedad et l'Atlético de Madrid a été inscrit?
14 secondes.
14 secondes, effectivement, par l'ailier de la Sociedad, Ander Barrenetxea, excusez-moi pour la prononciation, signant le but le plus rapide de l'histoire des finales de Coupe du Roi, record qui était détenu par Manuel Badenes avec Valence en 17 secondes contre le FC Barcelone en 1952. Deuxième question. Quel athlète a annoncé se lancer dans le cyclisme récemment ?
Émilien Jacquelin.
Effectivement, Émilien Jacquelin a annoncé récemment qu'il rejoignait l'équipe cycliste Decathlon CMA CGM pour une durée de 6 mois en tant que stagiaire durant l'intersaison de biathlon. Grand passionné de cyclisme, l'athlète de 30 ans veut élargir son horizon et sortir de sa zone de confort. On peut aussi citer Victor Wembanyama qui a plus récemment déclaré vouloir essayer le rugby cet été. Troisième question. Qui était l'adversaire de la finale remportée par Arthur Fils lors du tournoi de Barcelone ?
Rublev. On l'a eu en même temps, j'ai l'impression.
Ouais, en même temps.
Effectivement, Baptiste et Travis vous remportez donc tous les deux un point, comme vous l'avez dit en même temps. Et c'est donc bien Andrei Rublev avec une victoire en 2-7, 6-2, 7-6 pour le Français qui a pris la 25e place mondiale et est redevenu le numéro 1 français. Quatrième question. Dans quel club des 5 grands championnats, une femme a dirigé en tant que coach un match de football masculin pour la première fois de l'histoire?
L'Union Berlin.
C'était bien l'Union Berlin. Et c'est l'Allemande Marie-Louise Etta qui a été nommée coach intérimaire de l'Union et qui a concédé une défaite pour son premier match le samedi 18 avril 2026 contre Wolfsburg 2-1. Pour l'instant, au niveau des scores, on a Baptiste et Alima qui sont premiers avec 2 points, suivis de Travis avec 1 point. C'est pour l'instant très serré dans ce début de challenge des 10 questions. Cinquième question. À quelle place a terminé la France lors des championnats d'Europe de judo à Tbilissi, en Géorgie?
Deuxième,
c'est ça, avec 12 médailles, soit la nation qui en a remporté le plus, mais derrière la Géorgie, les Géorgiens ont remporté 4 titres, et la France seulement 2. Sixième question, combien de points ont été inscrits par Bam Adebayo contre les Washington Wizards, permettant à l'intérieur du Miami Heat d'établir la deuxième meilleure performance en nombre de points marqués en un match de NBA?
Je vais dire 60 points.
82.
83.
83 points, c'est ça, battant les 81 points de Kobe Bryant avec les Lakers en 2006, mais loin derrière les 100 points de Wilt Chamberlain en 1962 avec les Warriors de Philadelphie, futurs Golden State Warriors. Septième question. Quelle écurie a remporté les 24 heures du Mans en moto le 19 avril 2026 ?
Bugatti.
Mercedes.
Yamaha.
C'était donc bien Yamaha, la numéro 1 du Yacht plus précisément, piloté par Marvin Fritz, Karel Anika et Leandro Mercado, qui ont terminé la course en 861 tours, soit 5 tours de plus que le deuxième, la Suzuki numéro 12 du CERT, avec Greg Black, Étienne Masson et Dalin Foote. La Kawasaki numéro 11 prend la troisième place. Huitième question. Quelle était la nationalité du badiste qui a perdu en finale simple homme des championnats d'Europe de badminton le 12 avril dernier?
Danemark.
Il était donc bien danois, il s'appelle Anders Antonensen, et le plus drôle, c'est que c'était le seul non-français encore en lice en demi-finale, puisqu'il s'est imposé contre le français Arnaud Merclé, tandis que Christo Popov s'est imposé face à son frère Thomas Junior Popov, avant de s'imposer en finale contre le danois 21-12-21-19. A noter aussi que les Popov ont également fini à la deuxième marche du podium en double homme. Petit point sur les scores. On a pour l'instant Baptiste et Alima qui sont toujours à égalité et Travis qui suit mais un peu plus loin malheureusement avec un point. Et il reste encore deux questions, donc tu peux quand même revenir, même si tu ne gagneras pas malheureusement ce challenge aujourd'hui. Neuvième question. Qui a remporté l'Eurodivisie, le championnat néerlandais de football.
PSV Eindhoven.
C'était bien le PSV Eindhoven pour la 27e fois de son histoire devant le Feyenoord et le NEC Nijmegen. Au passage, l'Ajax ne termine que 5e du championnat et devront passer les play-offs d'accession à la Conference League. 10e et dernière question. À quelle place la France a-t-elle terminé au tableau des médailles aux Jeux paralympiques de 2026?
7e.
6.
C'était donc bien 6e avec 12 médailles en tout, 4 de chaque couleur. Les Bleus qui visaient le top 4 comme à Pékin en 2022 n'ont pas réussi leur objectif malgré le même nombre de médailles remportées mais en moins grand nombre pour l'or qu'en 2022, 7 précisément. Alors, Baptiste et Alima sont à égalité avec 5 points et nous allons alors les départager avec une question bonus qui est la suivante. Qui a remporté le derby entre le Sporting et Benfica?
C'est Benfica.
C'était bien Benfica sur le score de 2-1, leur permettant de passer deuxième au championnat, mais reste quand même derrière le FC Porto, leader avec 7 points d'avance. C'est donc Baptiste qui gagne ce challenge des 10 questions. Bravo à toi.
Merci beaucoup.
Et nous allons maintenant pouvoir continuer l'émission avec notre débat commun de l'épisode. Et aujourd'hui, on va revenir sur les Jeux Olympiques d'hiver à Milan Cortina en Italie. La 25e édition des Jeux Olympiques d'hiver ont eu lieu cette année en Italie du 6 février au 22 février. La particularité de ces JO, c'est la multitude de sites puisque les JO étaient organisés à Milan, Cortina, à Bormio, à Val di Fiemme pour les épreuves de fond et de combiné nordique et à Anterselva, plus connu sous le nom d'Antols, pour le biathlon. Au niveau de la nouveauté, c'est l'arrivée du ski alpinisme avec de grandes chances de médailles côté français. Justement, en parlant des Français, ces derniers ont terminé 6e du tableau des médailles avec 23 médailles, record largement dépassé puisque celui-ci datait de 2014 et 2015 à Sochi et Pyeongchang, avec 15 médailles. L'objectif des plus de 50% de médailles entre Pékin et Milan Cortina, voulu par l'Agence nationale du sport, soit 21 médailles, a été battu également. Les Bleus ont récolté ainsi 10 médailles d'or, 6 d'argent et 14 de bronze. Et parmi toutes ces médailles, un sport a particulièrement brillé et sans surprise, c'est le biathlon avec 13 médailles, record battu puisqu'il était précédemment de 7 à Pékin en 2022. La nouvelle discipline, le ski alpinisme, a permis 3 médailles, tout comme le ski de fond, avec l'éclosion de Mathis Deloge. Parmi les échecs, il faut noter le snowboard et le cross avec seulement une médaille et le ski cross qui est reparti sans médaille. Alors j'aimerais savoir, cher chroniqueur, quel est votre meilleur souvenir de ces JO?
Pour moi, si on parle de meilleurs souvenirs sans médaille, j'ai la réaction qui me vient en tête de Violaine Brown, la française en ski de patinage sur long track, qui pleure sur la piste après avoir fait les JO. Et en fait, son histoire est tellement émouvante que genre ça met les yeux à tout, ça met les larmes à tout le monde. Elle fait les JO alors qu'elle a perdu, je crois, son papa ou son grand-père récemment. Et je trouvais ce moment tellement émouvant. Niveau émotion, et donc ça c'est, j'ai l'image en tête dès qu'on parle de patinage, etc. En tout cas, ça c'est sans médaille, mais avec la médaille, pour moi c'est, si peut-être le relais féminin au biathlon, les remontées, les deux relais, masculin et féminin, les deux remontadas, ils et elles l'ont sorti des tripes, et c'est ça qu'on aime voir, surtout dans ce sport, où on domine, on n'était pas favori, on était favori, on est parti loin, on est revenu doublé en or. Surtout pour les hommes qui n'avaient pas eu le titre depuis longtemps. C'est très beau et c'est mes trois images de Milan Cortina.
Ouais, c'est vrai que le biathlon, il y a quand même eu pas mal de belles images. Moi, celle qui m'a le plus marquée, c'est la dernière course des féminines avec la victoire d'Océane Michelon. Qui paraît, enfin le doublé, enfin Julia Simon et Océane Michelon en 1 et 2. J'ai trouvé ça tellement incroyable. Et puis en plus, elle n'y croyait pas quand elle est arrivée sur la ligne d'arrivée. C'était trop beau à voir. Donc je pense que c'est l'image qui vraiment m'a le plus marquée. Et puis Julia Simon qui est revenue un peu de tous les problèmes qu'elle a eus et qui a fait des JO remarquables. Hein. Concrètement, on ne peut pas dire le contraire. Donc franchement, je pense que c'est ce qui m'a le plus marquée. Et puis très contente de voir que le biathlon a porté vraiment ces Jeux Olympiques parce que heureusement que ce sport existe pour les JO d'hiver pour le coup.
Et pour les Français.
Surtout.
Et toi Trévis?
J'ai pas trop d'images en tête, mais le biathlon français a vraiment dominé ces JO d'hiver.
On peut aussi noter le patinage artistique avec Guillaume Cizeron et... J'oublie à chaque fois son prénom. Et donc Laurence Fourny-Baudry, qui ont performé lors de ces JO, alors que ça fait pas longtemps finalement qu'ils sont en JO.
Ouais, un an, il me semble. Ça fait un an. Et il y a eu... Ouais, vas-y, continue.
Non, mais vas-y.
Et il y a eu aussi... On avait aussi des chances de médaille en solo masculin, mais les deux Français n'ont pas réussi. Tous les favoris sont écroulés et c'est une petite surprise.
Et puis voilà, je voulais aussi évoquer le ski alpinisme, forcément une nouvelle discipline. Et comme j'ai pu le lire donc dans la petite chronique sur le débat, on a eu quand même trois médailles avec, on peut le dire, on a complètement dominé. Cette discipline, comme le biathlon, finalement. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez un peu de cette nouvelle discipline? Est-ce que vous êtes un peu intéressé? Est-ce que vous avez apprécié le regarder à la télé ou...
Ski alpinisme, j'avais vu genre 3 semaines avant les JO. J'étais avec la télé, avec mes parents devant, et je trouvais ça grave intéressant, le format. Après, c'est un format différent de ce qui s'est passé au jeu, mais je trouvais le format très intéressant parce qu'on voit toutes les étapes du ski, entre guillemets, que ça soit le ski de montagne, le ski de randonnée, la marche avec les skis, ensuite la descente. Je trouve ça très intéressant, assez dynamique. Les explications des commentateurs ont été claires, je trouve. C'est assez plaisant à voir et ça reste un sport visuel, très visuel et assez compréhensible pour tout le monde.
Et puis surtout, c'est impressionnant de voir comment ils arrivent aussi rapidement à changer au niveau des skis, de la marche. Enfin, c'est impressionnant qu'ils passent après en plus sur la descente. Et ça, en à peine 3 minutes 30, il me semble, c'est à peu près le temps ça. Moyen. C'est fou, moi j'ai vraiment, pour le coup, j'ai vraiment bien apprécié. En plus, du coup, avec les Français et les Françaises aussi qui ont gagné, la Française, j'ai oublié son
nom. Trois courses, trois victoires. Ouais. Tout simplement. On a victoire masculin, victoire féminin, victoire en double misque.
Personnellement, c'est vrai que j'ai pas trop suivi le ski alpinisme.
C'est Hazelmet.
Pardon.
Il y a Hazelmet, un homme, je crois, Thibaut Hazelmet, qui a fini champion olympique, et sa collègue.
C'est Emilia Rop.
Voilà. Donc, ouais, on avait beaucoup de chance. Au final, c'est Emilia Rop et Thibaut Hazelmet qui ont brillé. Mais je pense qu'on aurait pu avoir des chances d'avoir une médaille d'argent, une médaille de bronze, par exemple sur les filles ou les garçons en individuel qui peuvent briller aussi.
Alors, pour le détail des médailles côté français, donc Thibaut Hazelmet a gagné la médaille de bronze en simple homme. Emilia Rop a gagné la médaille d'argent en simple femme. Et donc, les deux en relais mixte ont eu la médaille d'or. Voilà, pour le petit palmarès donc, de nos Français. Du coup, Alima, tu disais tout à l'heure...
Que personnellement, je n'ai pas trop suivi, ouais. Ce n'est pas forcément le sport que j'ai le plus suivi. J'ai beaucoup plus eu d'attention sur forcément le biathlon, en effet le patinage dans sur glace, et le bobsleigh aussi, j'ai adoré. J'adore le concept, enfin, ça me fait beaucoup rire en fait. Mais ça me fait beaucoup de peine aussi quand je vois les sportifs qui se retournent d'un coup, tu dis, ou qui font un faux départ, ou un départ très mauvais. Tu dis, ça fait de la peine quand même, tu te prépares 4 ans pour ça, et t'arrives face à la compétition, et franchement, ça fait de la peine. Mais c'est vrai que oui, globalement, c'est ça. Et puis franchement, très marqué au niveau de la France, forcément, Quentin Fillon-Maillet, quoi, c'est assez énorme. Enfin, il me semble que c'est le sportif le plus médaillé Jeux Olympiques d'été et hiver confondus. Ça montre tout simplement la performance qu'il a depuis un moment maintenant quand même. Et il prend parfaitement la relève des anciens comme Martin Fourcade, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une nouvelle ère qui s'ouvre avec le biathlon. Et je pense que ça a donné envie à des gens aussi de suivre un peu plus intensément ce sport lors des Coupes du Monde, etc. Et plus largement, je pense que les Jeux Olympiques d'hiver, il y a quand même eu une assez bonne médiatisation, je trouve, pour cela. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Les JO d'hiver, ils ont permis de voir que on a quand même un potentiel dans les jeux, que ce soit biathlon, patinage artistique.
Ouais, mais je sais pas vous, mais je trouve que c'est quand même un potentiel qui est encore, enfin c'est un potentiel. C'est-à-dire que, enfin, je trouve quand même que effectivement le biathlon a porté, le patinage a porté, ski de bosse aussi, il me semble Perrine Lafont elle a été médaillée aussi.
Une médaille par chance, je trouve. Parce que elle a performé, la favorite à la chute, elle aurait pu avoir aussi une médaille de bronze au parallèle, mais elle est sortie de piste et elle est passée derrière un drapeau, donc elle n'a pas pu avoir.
Et puis je pense que globalement on pourra faire mieux les autres années et on doit faire mieux encore, parce que enfin on fait partie des pays qui ont, je crois, on est le deuxième pays qui a le plus de domaines skiables, donc c'est vrai que c'est, je pense que c'est encore à développer. Donc pour moi ça reste une réussite ces JO pour la France en tout cas, mais je pense qu'il y a encore mieux à faire. Surtout dans les autres disciplines, celles qu'on a déjà citées, bon bah voilà, mais c'est vrai que les autres, va peut-être falloir faire quelque chose.
D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'on va être capable de rebattre encore notre record là avec les JO de 2030 qui ont lieu en France.
Je pense, bien sûr. Tu joues à domicile, tu as toujours une sensation particulière, que ce soit dans tous les sports, que ce soit biathlon. Je pense ça va être difficile de rechercher un record comme ça, mais ça reste un endroit où on peut faire facilement cette 8 médailles. On a le patinage, on a le que ça soit patinage de vitesse, short track, long track, parce que les personnes dans ces disciplines sont assez jeunes et elles se relancent beaucoup pour pouvoir aller à 2030. On a tout ce qui est patinage danse, artistique, avec Guillaume Cisseron et Laurence Fournier-Baudry. On a des capacités et on a de la jeunesse à peu près de partout, que ça soit en ski de descente, en ski alpinisme, en bobsleigh. L'équipe de France est dommage parce qu'elle a raté ses deux départs, mais on aurait pu faire quelque chose, je pense, et que c'est qu'une construction. Et que là, tous les jeunes qui ont fait 2026 juste pour pouvoir découvrir les Jeux Olympiques vont mettre les bouchées doubles pour pouvoir performer en 2030 à domicile.
Moi, je pense que la France peut être capable, en tout cas battre ce record au moins en 2030, comme tu l'as dit, Baptiste. Ils sont à domicile, il va y avoir du public et ça peut vraiment faire la différence. En plus, les Français connaissent à peu près quand même leur site. Donc, je pense que la France est capable, surtout qu'on a eu quelques déceptions, malheureusement, avec le snowboard et le cross, alors que ce sont pourtant des disciplines où d'habitude on réussit bien, mais bon, apparemment, la piste n'était pas au goût des Français, de ce qu'on a pu comprendre. Puis c'est, voilà, on reste aussi très performant en biathlon et dans les autres disciplines. Si on hockey sur glace aussi, peut-être on commence à monter un peu en niveau. Donc, potentiellement, ça peut aller loin. Même si bon, voilà, c'est, pour l'instant, ce n'est pas la discipline où on est très performant. Même chose en bobsleigh, tu as dit.
Ouais, en bobsleigh, ouais. Bah, comme Ali m'a dit, c'est dommage. Et snowboard cross, oui, mais après, ça, ce que je me dis, c'est que c'est un peu de partout pareil. C'est-à-dire qu'on va avoir en France, on va aller en France, les Français, normalement, vont construire une piste qui convienne plus aux Français. Je trouve ça logique. Là-bas, c'était une piste qui jouait beaucoup sur l'aérodynamisme. Et il y avait beaucoup de virages et peu de technique, alors que les Français sont très techniques. Et donc, quand on va être en 2030, ça va être un parcours technique.
Ah, moi, je me rappelle la fin du parcours, quand on se faisait dépasser à chaque fois, alors que pourtant, on était toujours dans les premiers. Parce que ouais, l'aérodynamisme, et ça faisait la différence. Donc, on verra bien, en tout cas, quand le moment sera venu. Petit dernier mot aussi sur le biathlon. On n'a pas évoqué, mais Emilia Jacquelin, qui nous a fait aussi des JO assez fou avec son panache, quand même. Il a été médaillé de bronze en poursuite, et donc médaillé d'or en relais chez les hommes. Gros JO aussi pour lui. En plus, il avait sa petite boucle d'oreille en référence à un cycliste italien, si je me rappelle bien. Donc voilà, c'est aussi et ça lui a permis aussi après d'enchaîner aussi sur la Coupe du Monde où il a été encore performant derrière.
Et Louvain Monod aussi, beaucoup de biathlètes ont brillé. Que ce soit Louvain Monod qui a quand même eu un petit hamburger de médaille. Pareil pour Quentin Fillon-Maillet.
Éric Perrault.
Éric Perrault, Jacquelin, Simon.
Je sais plus exactement ce qu'avait fait Juliette Brezaz-Boucher aussi.
Ah, Julia.
Julia, pardon. Attends, non, Juliette, non. Julia Simon, Juliette Brezaz-Boucher. Justine. Je sais plus ce qu'avait fait aussi Justine Brezaz-Boucher. Il me semble qu'elle était un peu déçue en sortant des JO. Hein.
Justine Brezaz-Boucher, elle n'a pas performé autant que ça aux JO. Et même en Coupe du Monde, elle n'a pas performé. C'était pas sa saison, tout simplement. Ouais. Mais c'est comme tout le monde, il y a des jours avec et des jours sans, et c'était pas sa saison.
Mais surtout que ce qui est décevant avec Justine Brezaz-Boucher, c'est qu'elle est très rapide en ski, et que malheureusement, c'est sur le tir où elle pêche, malheureusement, et c'est vraiment dommage. Et il me semble même que c'est le coucher, je crois, où elle a le plus du mal, si je me souviens bien. Bon, c'est comme ça, ça arrive. Il y a des saisons, c'est comme ça, c'est compliqué. Donc voilà.
Il y a un autre sport où j'ai été un peu déçu, comparé aux Coupes du Monde, c'est le ski alpin. Le ski alpin, on a Clément Noël qui a rien fait. On a eu un Paco Rassa qui commence à exploser petit à petit et qu'on n'a pas vu lors du ski alpin. On a une médaille française en ski alpin, c'est Romain Miradoli qui décroche l'argent. Mais ça, c'est un bel exploit parce que je ne m'y attendais pas du tout. Mais par exemple, sur le ski alpin masculin, je m'attendais à au moins une médaille et on ressort bredouille.
Et aussi sur le ski de fond. Ski de fond avec Mathis Deloge qui a eu peut-être un peu aussi la révélation de ces JO côté français avec ses médailles d'argent, malheureusement pas d'or, puisque on a un autre Norvégien, Johannes
Klebe,
ça se prononce comme ça, qui a performé,
qui a tout raflé
même côté des Norvégiens. Mais belle découverte aussi, je trouve, pour 2030 aussi.
Belle découverte pour Mathis Deloge en général, mais belle découverte pour le ski de fond tout court, parce que quand même, aller chercher une médaille d'argent avec... Il y a Chili, je crois, il y a Hugo Lapalu, même si lui, ça fait quelques temps qu'il est sur le milieu. Mais comme je dis, en général, on a un grand panel et les anciens arrivent à donner de l'expérience aux nouveaux. Les nouveaux, cette année, même s'ils étaient un peu mis en retrait, Mathis Deloche a bien représenté la nouvelle génération qui arrive pour décrocher l'or en 2030.
On espère.
Bien, on a fait à peu près le tour là, de ces JO d'hiver. On va maintenant passer à nos chroniques habituelles, avec aujourd'hui Halima, Baptiste, qui vont vous présenter leurs chroniques. Et on va commencer par Baptiste, avec le tennis de table.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Durant le printemps, je pars souvent, lors des week-ends fériés, dans différents campings. Et j'en ai jamais vu un sans cet élément indispensable pour tout fan de sport. Une table de tennis de table. En effet, les pongistes. Je vais parler de votre sport avec les Français qui ont très bien performé récemment, tout en tâchant de ne pas insulter votre discipline en disant le mot interdit. Tout d'abord, pour commencer, nous allons voyager en Tunisie avec une très belle surprise tricolore du côté du WTT Contender à Tunis. En effet, Flavia Conton, jeune pongiste qui a eu 18 ans en avril, qui est donc plus jeune que tout le monde dans le studio, a remporté le tournoi d'une main de maître. Le vainqueur du tournoi a encaissé seulement 4 sets contre 7 remportés. Avec cette finale, Flavien Coton se place 21e mondial en montant de 5 positions et s'octroie sa meilleure place au classement mondial. Juste après, les Français les mieux classés en WTT et WTA, classement masculin et féminin, se sont affrontés lors des championnats du monde de tennis de table. Les frères Lebrun, ainsi que Thibaut Poré ont survécu aux phases de groupe, tout comme Jia Nan Yun du côté féminin. Mais leur joie va être de courte durée, car 3 des 4 tricolores en lice vont sortir en 8e de finale avec une confrontation 100% Made in France à Macao. Seul Alexis Lebrun va continuer son aventure avant de s'arrêter au tour suivant avec une défaite sèche 4-0. Ces deux tournois montrent que le tennis de table français prend de l'ampleur au niveau professionnel avec Félix Lebrun qui tient tête au numéro 1 mondial, mais aussi des jeunes qui performent à des moments inattendus. Chez les femmes, c'est un peu plus timide, mais la France ne s'est jamais si bien comportée en ping-pong. Oups, j'ai dit le mot interdit. Au revoir. Donc, la question pour les chroniqueurs ici, c'est est-ce que la France a un avenir dans le ping-pong pour les prochaines années, dont les Jeux Olympiques 2028 ?
Qui osera dire non ?
Pendant que tu étais en train de parler, Baptiste, j'étais en train de me dire, c'est vrai que le tennis de table, c'est un sport vraiment qu'on connaît depuis finalement les JO de 2024. Et je trouve depuis maintenant 2 ans, c'est vraiment un sport qui est de plus en plus visible, je trouve, dans tous les sports, que ce soit à la télé ou même en termes de public. Et finalement, le fait que là, on a encore des nouveaux sportifs, des nouveaux pongistes qui arrivent, je trouve que ça permet la continuité en fait, de cette... cette apparition de la visibilité de cette apparition du tennis de table dans les sports connus en France, notamment donc avec Flavien Coton qui est très jeune, mais je pense que on a un bel avenir dans ce sport pour répondre à ta question, notamment pour 2028 où j'espère qu'on aura même une médaille d'or peut-être si c'est pas les frères Lebrun, un autre pongiste français.
Au niveau masculin, on en a pas mal. Y a Thibaut Poré, il y a Flavia Coton, il y a Simon Gauzy.
Et d'ailleurs, petit fait d'actualité, puisque donc, hier, au moment où on tourne, le numéro 8 français, Joël Sevred, a remporté le Feeder de Senec en Slovaquie, soit son 3e titre de sa carrière sur le circuit WTT, et est entré dans le top 50 des meilleurs pongistes mondiaux.
Juste ça.
Voilà, donc il faut se dire qu'on a quand même 8 Français qui sont dans le top 50.
Niveau féminin, c'est pas trop ça, mais on a quand même Jia Nan Yun, et on en a une autre aussi qui, je crois que c'est Pavache ou un truc comme ça, je vais chercher. Mais niveau masculin, on a de quoi faire.
Non mais c'est vrai, t'as raison Antonin, ça a beaucoup commencé en 2024, la passion pour le ping-pong. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui depuis ça se sont inscrites, ont inscrit leurs enfants à des cours de ping-pong. Je pense qu'on a besoin aussi d'avoir des personnages qui vont, des sportifs, pardon, qui vont montrer un peu le chemin de ce sport, parce que Félix et Alexis l'ont très bien incarné, à ce moment-là. Et le fait de voir que c'est un sport qui se démocratise beaucoup, même en termes de diffusion, je sais que l'équipe 21, l'équipe maintenant, le diffuse souvent, le tennis de table.
RMC aussi sur Twitch.
Ouais, donc c'est une très bonne chose, je trouve. Et de très bon augure pour les Jeux Olympiques 2028, ça j'ai vraiment aucun doute, mais vraiment aucun.
Est-ce que de là aller chercher un titre olympique ?
Oui, même ne serait-ce qu'en double. En double, ça me paraît possible. Enfin, après, oui, la compétition, elle sera forte forcément, mais je pense qu'il y a largement quelque chose à faire. Un titre olympique, ça me paraît pas être un objectif inatteignable, quoi. Vraiment pas.
Vas-y, Travis.
Ouais, au niveau de l'image médiatique, j'ai vraiment l'impression que le ping-pong, depuis 2024, c'est devenu un autre monde. Déjà, je regardais, je crois, un peu avant les JO, déjà, je regardais le ping-pong, mais c'était pas autant médiatisé. Il y avait juste, par exemple, Simon Gauzy qui faisait des petites perfs, mais il n'y avait pas quelqu'un qui éclatait l'écran comme les frères Lebrun. Et là, vraiment, on a vraiment des personnages forts. Je regardais... c'était début d'année, je crois, le tournoi à Singapour. J'entendais le public sur RMC, c'était fou, qui applaudissait les frères Lebrun. J'étais en mode, mais je me disais, c'est, tu vois, on peut se dire c'est que du ping-pong, mais c'est plus que ça, tu vois. Et pour en revenir à la question de est-ce qu'on a un avenir, mais bien sûr, là, tu parlais de Flavien Coton. Même lui, je m'attendais pas à qu'il y a un nouveau mec qui sort du chapeau et qui enflamme le ping-pong français, et c'est super. Et même si là, pour les frères Lebrun, ils sont encore toujours, ils ont une épine dans le pied, c'est l'école chinoise. À chaque tournoi, s'ils perdent, c'est à cause d'un chinois. Félix Lebrun au dernier tournoi.
Oui, Félix Lebrun, oui, face au numéro 1 mondial, mais c'est Alexis Lebrun, il s'incline contre un Brésilien.
T'es sûr?
Oui, Calderano.
Ah oui, Calderano, oui.
Mais non, mais globalement, il y a une concurrence assez marquante avec, en effet, les pongistes chinois qui sont très très forts aux Jeux Olympiques, rien que là. C'est ceux qui dominent depuis le plus longtemps, en tout cas. Donc,
oui, c'est ça. Ouais. Et par exemple, niveau féminin, les personnes que je cherchais, c'était Pavad, et il y a aussi les sœurs Lutz. Mais par exemple, en 2024, t'as Félix qui ramène une médaille de bronze en simple, et la France ramène une médaille de bronze par équipe masculin, et... depuis 2025, et championne de rampe masculine par équipe. Donc, c'est plein d'espoir.
Et puis, ils sont tellement jeunes. A priori, les Jeux Olympiques, ils en ont encore quelques-uns à aller chercher. Donc, même s'il n'y a pas de médaille d'or au prochain, tu peux te dire que... De toute façon, les deux ne pourront pas gagner... Enfin, si on parle que des Lebrun, les deux ne pourront pas gagner les deux la médaille d'or en simple. Mais globalement, sur les prochaines compétitions, en tout cas, il y a de belles choses à voir.
Maintenant, Alima va vous parler du fléau des blessures dans le sport.
Et oui, aujourd'hui on va parler d'un sujet omniprésent dans le monde du sport, parce que à l'entraînement comme en compétition, les blessures font partie du quotidien des sportifs, et elles peuvent littéralement tout changer d'une simple blessure à une fin de saison. L'exemple le plus parlant aujourd'hui, c'est Hugo Ekitike, qui lors du quart de finale retour face au PSG en Ligue des Champions, arrête brutalement sa course, et le verdict est sans appel, rupture du tendon d'Achille, à peu près 9 mois d'absence et des rêves de Coupe du Monde qui s'envolent. Le problème avec ce genre de situation, c'est qu'il est loin d'être le seul, beaucoup vivent des exemples similaires. Par exemple, Panicelli, l'attaquant strasbourgeois, se blesse lors de la dernière trêve internationale à laquelle il n'était pas convié au départ. Là aussi, ce sont les ligaments croisés qui vont le priver d'une fin de saison comme meilleur buteur de la Ligue 1 et de Coupe du Monde avec l'Argentine. Ce constat dépasse largement le cadre du football. Le dimanche 8 février, lors des Jeux Olympiques d'hiver à Cortina, la skieuse américaine de 41 ans, Lindsey Vonn, décide de se lancer dans la compétition malgré une rupture des ligaments du genou gauche. Le dimanche 8 février, lors des Jeux Olympiques d'hiver à Cortina, la skieuse américaine de 41 ans, Lindsey Vonn, décide de se lancer dans la compétition malgré une rupture des ligaments du genou gauche qui est parvenue une semaine avant. Et là, pas de miracle, elle chute lourdement lors de la descente avant d'être prise en charge en hélicoptère. Elle n'a donc pas pu poursuivre ses Jeux Olympiques. Au contraire, certains sportifs veulent se préserver pour la suite de leur compétition en renonçant à participer à celle qui arrive parce qu'ils ont une blessure qui peut-être est maîtrisable, mais qu'ils estiment que cela mettrait mettrait en péril la suite de leur carrière. Aujourd'hui, c'est le cas de Carlos Alcaraz qui a dû déclarer forfait pour le Master 1000 de Madrid, ce qui est un réel coup dur pour lui parce que c'est sa ville, c'est son pays et c'était un objectif pour lui. Touché au poignet, il a tenu à s'exprimer sur Roland Garros qui arrive. Donc je vous cite. « Je tiens absolument à disputer Roland Garros, mais cela pourrait me porter préjudice pour les tournois suivants. » Il ajoute à cela « Je préfère revenir plus tard, mais en pleine forme, plutôt que de revenir trop vite et risquer d'aggraver cette blessure. » Une saison raccourcie, des objectifs à revoir, d'autres sont déjà passés par là, et pourtant cela peut avoir des conséquences directes sur les résultats suivants, sur le mental, surtout quand il s'agit de grandes échéances, comme les Jeux Olympiques, en témoigne le cas Kevin Mayer en 2024. Au-delà de l'impact sur les sportifs, les clubs et équipes pour lesquels ils concourent sont directement concernés par ces blessures. Le témoin parfait aujourd'hui, ça reste le club mythique du Real Madrid, qui a connu une avalanche de blessés tout au long de cette saison, à commencer par Rodrigo, qui, malgré sa blessure en plein match, reste sur le terrain. Et les examens révéleront une rupture des ligaments croisés qui vont, eux aussi, le priver d'une Coupe du Monde cet été. Pour les quarts de finale de Ligue des Champions, le Real est privé d'un atout majeur, leur atout principal certainement Thibaut Courtois. Le gardien n'a pas pu être présent pour les deux rencontres. Simple coïncidence ou pas, ils sont éliminés par le Bayern malgré deux belles performances. Un autre club qui a été fortement touché par ses blessures cette saison, c'est le FC Barcelone, qui a été privé successivement de Gavi, Pedri, De Jong, Koundé, mais aussi Rafinha, qui, après le match amical contre la France, n'a d'ailleurs pas pu finir ce match, ce qui lui a valu les reproches des supporters barcelonais, et surtout après l'élimination contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, où il n'était évidemment pas présent. Pour rendre compte des effets directs qu'ont ces absences pour leurs coéquipiers, je me suis concentrée sur trois grands clubs de Ligue 1, le LOSC, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Concernant les Lillois, ils ont connu une période très difficile aux alentours de la trêve hivernale avec une seule victoire, toute compétition confondue, en 10 matchs, entre la 17e journée de Ligue 1 et la 23e. C'était contre Fribourg en Ligue Europa, victoire 1-0, avant d'enchaîner après cette dure période avec deux victoires d'affilée contre Angers et le FC Nantes, sans oublier leur sortie victorieuse des barrages d'Europa contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Pendant cette série noire, ils ne peuvent pas compter sur plusieurs joueurs qui sont absents. On a le cas de Hamzaï Gaman qui est parti à la CAN et qui n'en est pas vraiment revenu, parce qu'il est victime des croisés depuis le 19 janvier. Et ça, c'est un réel coup dur pour le LOSC parce qu'ils n'ont plus d'avant-centre à part Olivier Giroud à ce moment-là, et ils sont réellement en difficulté pour marquer des buts. Donc ça se ressent forcément sur le score, sur les résultats, et forcément quand on ne marque pas, on ne peut pas gagner. De la même manière, un joueur qui émerge vraiment dans le collectif du LOSC ces dernières semaines et depuis cette saison, c'est Ethan Mbappé, qui a une saison un petit peu entrecoupée par les blessures malheureusement et des rechutes au niveau de la cuisse. Et donc il était notamment absent dans cette période lors de la défaite contre l'Olympique Lyonnais et le nul contre le FC Metz. Tout comme Nabil Bentaleb, qui lui aussi était absent lors de ces deux rencontres à cause d'une blessure à l'épaule et qui récemment a été absent contre Nice, et là, match nul pour le LOSC. On se rend compte qu'il y a eu un manque de possibilités pour faire tourner, pour créer un 11 stable, et ça c'est directement lié à ce genre d'absences majeures qui ont paralysé un effectif entier. L'OL a aussi connu ça, effectif réduit et des blessures qui s'accumulent, cela donne une série compliquée après les 13 victoires. À ce moment-là, on peut noter l'absence de Pavel Schultz, Sonso Morera, Malik Fofana, Ernest Nouama, Humbert, Maitland-Niles, Tolisso. Statistique intéressante, Kluivert était présent sur 10 des 13 victoires de suite et absent lors de 8 des 9 matchs sans victoire. Dès son retour, l'OL enchaîne 2 victoires contre Lorient et le PSG. Le dernier club pour lequel j'ai regardé quelques statistiques avec les absences, c'est l'AS Monaco, qui est peut-être le club majeur dans ce domaine-là cette saison. Une avalanche de blessés, avec notamment le Paris Paul Pogba qui a fonctionné à moitié. Il a pu jouer quelques minutes, mais pas assez pour s'imposer tout au long de la saison. On a le cas de Minamino, qui a lui aussi été victime des ligaments croisés depuis le 22 décembre. L'AS Monaco a enchaîné une sacrée série de défaites à peu près au même moment que le LOSC au niveau de la trêve internationale. On a le cas de Golovin avec les ischios aussi. Et récemment, il a été absent alors qu'il avait marqué contre le PSG, contre Brest, contre l'OM. Et sur les deux derniers matchs où il est absent, l'AS Monaco n'a pas réussi à s'imposer. Un autre joueur que je peux donner, c'est Lamine Camara qui a été absent de la 6e à la 12e journée de Ligue 1, mais aussi qui a été absent pendant la CAN. Ou encore le cas de Ansu Fati qui a été prêté par le FC Barcelone et qui a lui aussi été blessé par les ischios, notamment contre Brest, l'OM et l'Olympique Lyonnais. Avec ces blessures, il est forcément difficile pour un club de trouver un équilibre. Ça paralyse aussi les équipes nationales, comme on a pu le voir avec les cas des personnes qui ne pourront pas être présentes pour la Coupe du Monde. Et donc par un autre joueur, causé par un retour trop anticipé, un enchaînement de matchs, des rechutes, voilà comment les blessures peuvent gâcher des saisons. Et donc justement, par rapport à ces blessures, j'ai pu citer celles qui ont eu lieu cette saison, parce que cette saison est assez marquante du point de vue des blessures. Et justement, je voulais avoir votre point de vue à vous sur pourquoi est-ce qu'on parle autant des blessures cette saison, qu'est-ce qui fait en fait qu'il y en ait eu autant finalement. Et je voulais aussi savoir quelle blessure vous a le plus marqué, que ce soit cette saison ou avant.
Je pense que cette saison, que ça soit dans tous les sports, que ça soit au foot, mais aussi au basket. Au basket, beaucoup de blessures. En NBA, je parle, il y a la règle des 65 matchs. Donc, pour être éligible à tout trophée, sauf que ça bloquait pas mal de joueurs. À être éligible, au final, ils ont pu s'arranger. Il y a Luka Doncic et Kate Cunningham qui ont pu accéder au titre pour entrer dans les équipes.
Jokic aussi, il me semble.
Jokic aussi, peut-être.
Il semble qu'il a fait une dérogation.
Mais en fait, c'est l'accumulation de matchs d'après moi. Parce qu'au foot, ils ont fait que d'enchaîner, que ça soit. Les personnes qui sont parties à la CAN, ils ont dû enchaîner 2 semaines avec 3 matchs par semaine quasiment. Que ça soit en NBA où c'est des rythmes pareils, 3 matchs par semaine. Et en plus, ils font tout, des allers-retours de partout dans les États-Unis. Donc pour moi, cette saison montre le problème global, c'est l'accumulation d'événements sportifs pour les sports collectifs et individuels.
Et pour revenir pardon sur Jokic, il a bien réussi à avoir les 65 matchs, finalement.
C'est pour ça. C'est que Doncic et Kate Cunningham. La blessure pour moi qui m'a le plus marqué, c'était en 2016, du gymnaste Samir Aitsaïd. J'étais devant la télé à ce moment-là et je suis parti m'enfuir dans la chambre. Parce que voir son genou retourner comme ça, c'est immonde. Et maintenant que je comprends un peu plus à ce sport, je comprends mieux la douleur qu'il a pu avoir. Et cette image me brise le cœur, personnellement.
En vrai, je trouve qu'il y a tellement de moments où j'ai l'impression de voir tous les jours presque une annonce de blessure. Parce qu'il y a l'enchaînement des matchs. Mais je pense aussi il y a aussi les rythmes de vie aussi, ils sont beaucoup plus acharnés par le travail. Ouais, on avait Arthur Fils qui notamment enchaînait beaucoup de matchs et il s'est blessé l'année dernière. Et là, il est revenu sur les terrains, il a gagné son ATP. Mais c'est pour dire que c'est des blessures longues là. C'est ça qu'on observe, c'est que c'est pas des blessures qui sont là pour deux jours. C'est là on parlait, mais je sais pas si ça peut être dû à ça, mais ça m'a fait penser à ta chronique à Lima, Loïse Boisson qui parlait de son retour sur les terrains et qui disait qu'elle avait peut-être subi une mauvaise opération, un mauvais diagnostic
oui.
Et du coup elle disait c'est peut-être ça qui a fait que sa blessure a été plus longue. Donc je me dis, est-ce que ça a plusieurs facteurs? Les blessures longues comme ça, là, on peut revenir au foot, mais au foot, pour l'OL notamment, ça peut être très handicapant pour un sport collectif d'avoir autant de blessures, que ce soit l'OL, soit le Real Madrid. C'est des clubs, ils sont touchés, ils jouent des grosses compétitions et sont touchés par...
Ouais, mais justement, est-ce que tu ne dis pas que ce n'est pas normal, justement, enfin que ce n'est pas normal qu'un club comme le Real Madrid ait autant de blessés? Enfin, est-ce qu'on peut pas se dire qu'il y a un problème dans la gestion des blessures aussi parce que c'est beaucoup de blessés le Real quand même.
Peut-être qu'il y aurait ça si... après peut-être c'est moi qui théorise là-dessus, mais moi je dis que je pense que le Real Madrid serait touché quand même par des blessures, qu'importe ce qui se passe.
La question aussi, c'est est-ce que les joueurs disputent pas aussi beaucoup trop de matchs? C'est aussi la question que je me pose parce que quand on regarde en NBA, qu'ils sont obligés d'avoir 65 matchs joués au minimum, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et pareil en football, avec toutes les compétitions qui ont été créées depuis ces dernières années, les joueurs sont quand même obligés de jouer beaucoup, beaucoup de matchs. Et forcément, ça augmente de fait le risque de blessure. C'est une problématique. Et pour revenir aussi, ça m'a fait penser à quelque chose tout à l'heure. Je trouve que le fait qu'il y ait ces augmentations de blessures, en quelque sorte, ça fausse un peu les matchs, parce que beaucoup de joueurs étant blessés, ce ne sont pas les vraies équipes qu'on finalement on voit s'affronter. Et c'est notamment le cas en NBA, où ça arrive même parfois que les joueurs sont laissés au repos pour éviter justement des risques de blessures. Et donc tu te retrouves avec des équipes B, C, alors que parfois c'est peut-être des gros matchs, et que ça joue soit pour un championnat ou pour une place, une qualification. Moi personnellement, ça me dérange, mais ça peut arriver malheureusement.
Non, mais j'avais vu une stat où il y avait eu un match de basket, je crois que c'est Utah contre Memphis, et dans les 7 joueurs qui ont joué des deux côtés, il n'y a aucun titulaire de base, dans le 5 majeur. Mmh. Donc, c'est la mise européenne, c'est une gestion des clubs en tous les cas. Et en fait, je me demande comment, quand on regarde Tendon d'Achille, il y a eu Jason Tatum au basket qui est revenu assez rapidement. Il y a Tyrese Haliburton qui a été blessé en juin dernier, qui revient de plus en plus et qui là commence à refaire du 5-5. Comment au basket ils sont entre guillemets aussi rapides sur les rétablissements de blessures et au foot on n'arrive pas à blesser. Je vais parler dans ma ligue Fofana où il a été blessé, il est revenu, il y a eu un problème, lui enlève un truc qui a été mis dans l'opération. Comment dans le foot on n'arrive pas à gérer des blessés?
Ouais, mais tu vois, il y a un peu des contre-exemples à ça aussi. Par exemple, Achraf Hakimi, quand il est blessé par Luis Diaz. Et justement, ça relie un peu le truc avec Malik Fofana, parce qu'ils sont tous les deux blessés par un autre joueur, au final. Mais tu vois, il accélère un peu sa reprise, sa remise en forme, on va dire. Il met tout en œuvre pour pouvoir disputer la CAN après. Et au final, il y parvient. Donc il me semble pas qu'il ait eu de pépins physiques depuis. Donc c'est qu'il y a quand même un contraste dessus en effet en fonction des blessés, des clubs aussi. C'est pour ça que je me questionnais beaucoup sur le Real Madrid, parce que c'est pas pour les incriminer ou quoi, mais c'est vrai que tu te dis que c'est quand même une institution majeure et t'as une suite de blessés. Enfin, moi je me demande quand même comment c'est possible qu'un joueur comme Rodrigo il se retrouve encore sur le terrain pendant plusieurs minutes, alors qu'il allait croiser, qu'il était vraiment en souffrance. Alors, à moins, je sais plus s'ils avaient encore des choix possibles de changement. Et dans ce cas-là, ils voulaient pas finir le match à 10.
Et dans ces cas-là, tu finis le match à 10, c'est la protection des joueurs.
C'est ça, c'est quand même très cool. Enfin, c'est quand même assez grave de dire que t'as un joueur qui allait croiser, qui est en souffrance, et il est sur le terrain comme ça, en train de finir son match. Et au final, force est de constater qu'il ne pourra pas aller à la Coupe du Monde avec le Brésil. Donc, c'est des cas quand même compliqués.
Et c'est comme la gestion de Mbappé aussi avec le Real Madrid, qui a joué alors qu'il était blessé. Enfin, c'est pareil. Mais c'est vrai que le Real Madrid, sur ça, il y a beaucoup de questions qui se posent.
Après, là, en fait, le truc, c'est que c'était gestion d'un collectif, d'une personne individuelle pour un collectif. Tu gères une personne, alors que, par exemple, sur les sports individuels, je sais pas, Loïs Boisson, Arthur Fils, Kevin Mayer, c'est les trois Français qui ont eu des gros pépins physiques et qui sont les plus médiatisés. Et Perrine Laffont aussi, par exemple.
Bien sûr.
Au final, tout seul, j'ai l'impression qu'il y a quand même une très bonne remise en forme. Et quand ils reviennent vraiment en forme. Arthur Fils, il a fait une grande pause, certes, mais il est vraiment revenu en forme. Alors que dans les sports collectifs, tu peux revenir, mais ne pas être en forme, te rechuter rapidement, etc. Perrine Laffont, elle a eu une grosse blessure. Elle s'est entraînée avec le staff du Stade Toulousain. Elle est revenue en forme. Elle décroche sa médaille olympique.
Ouais, bien sûr, ça arrive. Après, c'est vrai que tu vois, par exemple, en foot, il y a par exemple Mathieu Hudol qui s'est fait trois fois les ligaments croisés. Et au final, il revient. Et là, je pense qu'il est peut-être sur sa meilleure saison. Alors, peut-être que je ne l'ai pas trop suivi avant, donc je ne peux pas vraiment savoir si avant ça a été mieux. Mais quand même, on se dit qu'il y a quand même une possibilité de revenir. Et au contraire, tu as des fois où c'est vraiment des limites, des fins de carrière. Enfin, ça devient un engrenage et en fait, le corps est peut-être trop habitué à la blessure et pour se remettre ensuite, c'est compliqué. Enfin, on a le cas par exemple d'un Neymar qui lui, alors au-delà de l'hygiène de vie, etc., qu'on peut remettre en question ou pas, c'est pas le sujet, mais par exemple, il est blessé à la Coupe du Monde 2014 en quart de finale et donc il est forfait pour la demi-finale et le Brésil sort par 7 buts à 1 chez eux contre l'Allemagne. Et lui, au final, Neymar, bah après, il revient à un bon niveau. Il est bon, mais au final, les blessures, elles reviennent. Et puis là, ça va mieux cette saison, mais il a quand même été blessé avec Santos. Enfin, il y a quand même des fois où ton corps, il supporte pas les blessures et tu te diriges tout droit vers des saisons vraiment compliquées.
C'est ce qu'ils appellent au basket des injury prone. On a le cap au basket de personnes qui se blessent souvent. Cette année, on a touché du bois pour lui, mais la Melo Ball. LaMelo Ball, Zion Williamson. Normalement, et Anthony Davis. Si je vous cite ces trois joueurs, je ne suis pas sûr qu'ils aient joué deux saisons d'affilée avec 65 matchs.
Ouais, et puis Antonin, je sais que tu aimes bien quand même tout ce qui est au sujet des communications, etc. Je ne sais pas ce que tu penses de la communication autour des blessures. Tu parlais du Real Madrid, il y avait eu les sujets avec l'équipe de France, etc. Il y a eu, par rapport à Mbappé, le PSG aussi qui communique beaucoup moins sur les blessures. Tu te situes où par rapport à ça?
Moi, par exemple, en NBA aussi, ça arrive souvent qu'on va mettre les joueurs incertains ou dans les comment ils appellent ça, les les catégories de, ouais, d'un certain, parce qu'ils ne savent pas s'il est blessé. Mais souvent, c'est de la communication, mais c'est aussi psychologique pour les autres équipes. Se dire, ah bah, leur grand joueur va pas jouer. Et au final, au dernier moment, finalement, s'il est titulaire, c'est aussi un choix psychologique de parfois faire ça. Après, quand ils communiquent aux journalistes et aux médias, ça dépend s'ils veulent jouer vraiment, encore une fois, sur le côté psychologique, ou c'est vraiment une annonce qui est officielle et qui est vraiment, où le joueur est vraiment blessé. Après, de toute façon, ils ne vont pas tout dire non plus sur la gestion des joueurs.
Il y a du secret médical aussi.
Il y a du secret médical aussi. Je voulais aussi juste revenir sur le football en particulier. Je trouve qu'il y a aussi ce phénomène de précocité, plus que dans les autres sports, où ça peut jouer avec une surcharge peut-être trop tôt au niveau de la musculation de certains joueurs, qui malheureusement entraînent par la suite des complications dans leur carrière. Je pense que le football, pour le football, c'est vraiment aussi beaucoup plus présent que d'autres sports.
Et que ça soit au niveau professionnel et amateur aussi. Amateur, ça m'est déjà arrivé de faire un match de foot. J'ai joué face à quelqu'un qui avait 2 ans de moins que moi. Il a fait un malaise cardiaque en plein match.
Ouais.
Et ça reste quand même un problème de précocité, entre guillemets. Il avait 15 ans et il jouait face à un match contre des gens qui allaient avoir 18 ans.
Ouais, et puis il y a peut-être un manque de récupération des corps aussi, comme tu disais Baptiste, avec les calendriers très 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 surchargés. En effet, il y a beaucoup de joueurs de NBA qui se sont beaucoup plaints ces dernières semaines du nombre de matchs. Ça se voit dans beaucoup de sports maintenant, enfin encore plus. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de compétitions qui se créent, qu'il y a de plus en plus de choses et qu'il y a un peu peut-être... Alors surtout quand il y a des choses entre... sélection nationale et en club, en compétition, des fois même sur les amicaux aussi, les événements amicaux. Enfin, ça doit être compliqué de trouver un peu le juste milieu, aussi peut-être pour l'intensité à mettre dans un match. Peut-être sur... Il y a ce truc-là, je sais qu'il y a beaucoup... Bah, pour la Coupe du Monde, typiquement, on sait très bien que les années Coupe du Monde ou les années où il y a des euros, etc., en fin de saison, il y a des joueurs qui sont un peu... Oui, mais tranquille, parce que je veux quand même aller à ma compétition cet été, donc si vous pouviez me laisser en plein état, ce serait mieux.
Oui, c'est le cas, et même dans les sports, le tennis, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de compétitions. Au golf, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de compétitions. Handball, ils enchaînent 2 matchs par semaine. Basket, ils enchaînent 3 par semaine, voire 4 pour la NBA. Et la NBA, ils traversent tous les États-Unis.
C'est ça aussi.
C'est ça que je me dis.
Oui, le temps de récupération, les transports. Ouais.
Ils prennent l'avion. Il y a Wembanyama qui a fait un sujet sur ça. Il a dit, j'ai de la peine parce que je prends tout le temps l'avion. Et au niveau de la pollution, c'est pas l'idéal de 1, mais de 2, ils essayent de rassembler les matchs au même endroit, mais c'est pas totalement possible.
Et puis, par exemple, ça me fait penser aussi à autre chose. On voit de plus en plus aussi les joueurs de foot dire que maintenant, il n'y a pas un match où ils peuvent se dire « on va jouer tranquillement, c'est une petite équipe ». Je trouve de plus en plus maintenant, en interview, tu les entends dire que ouais, tous les matchs sont importants, ils sont obligés tous pratiquement les jouer à 100%. Et c'est vrai que de fait, tu augmentes tes chances, tes risques en tout cas de blessures.
Préfère cette mentalité.
Je suis d'accord aussi.
Que la mentalité, on joue contre Angers, on va pas bouger. On joue contre Metz, c'est 3 points gagnés. Je préfère cette mentalité où chaque match, en plus là on est sur une fin de saison, où chaque match est décisif pour ceux qui jouent. Soit les places européennes, soit les coupes, nationales, soit les coupes d'Europe, soit le maintien. Mais... Oui, actuellement, tous les matchs sont des finales pour tous les clubs, à part ceux qui sont en milieu de tableau, par exemple Paris FC, je vais prendre l'exemple. Mais...
Ou en NBA avec le tanking aussi, qui joue pas à 100% les matchs.
Ouais, mais ça reste une stratégie que Adam Silver veut enlever.
Ouais, mais après, tu vois, typiquement, il y a des clubs, en effet, qui se sauvent un petit peu de catastrophes, de maintien, des choses comme ça, des équipes aussi, comme je disais tout à l'heure, qui sont un peu dépendantes à certains joueurs, alors de manière plus ou moins directe. Ça veut pas dire qu'un joueur est absent, tu vas forcément perdre, mais dans le sens où, est-ce qu'il y aurait pas aussi peut-être un problème dans le recrutement, finalement? Il y a des problèmes de fond aussi, parce que si t'es pas capable de remplacer un joueur, c'est quand même compliqué, dans le sens où... Je vais prendre le cas du Paris Saint-Germain. Eux, ils ont le contre-coup de toutes leurs compétitions l'année dernière. Je ne sais même pas s'ils ont eu une semaine de vacances à eux. Mais c'est vrai que tu vois des joueurs qui enchaînent. On leur explique toujours qu'ils ne doivent pas, par exemple, prendre la Ligue 1 à la légère, même s'ils ont cet objectif de deuxième Ligue des Champions. Et au final, comme t'as dit Antonin, ils choisissent moins leur match, ils ont moins cette possibilité-là. Mais derrière, il faut que les remplaçants soient au niveau aussi. Parce que si toi, t'as envie de souffler un match, parce que derrière, tu sais que ça tire trop, il faut que ceux qui soient sur le terrain derrière soient capables de gagner. Enfin, en tout cas, de montrer quelque chose sur le terrain, quoi.
Voilà, c'est déjà la fin de ce 5e épisode de Time Out saison 2, avec la participation de Travis, Alima, Baptiste et présenté par moi-même, Antonin. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode, et je vous dis à bientôt.
Au revoir.
À bientôt. We'll be right back.